bonjour. Sur cette cassette qu'on va intituler « Les envoyés de Dieu », c'est pour faire suite aux précédentes, dont la première qui était « Où sont-ils ?», qui était une prise de conscience, un appel à repentance et un message de consolation. La deuxième qui a suivi était le plan du salut. Le plan que Dieu, dans sa grandeur, dans son amour, dans sa miséricorde, avait préparé pour chacun de ses enfants. Avec le moyen d'y parvenir, au moyen de la prière. La troisième s'intitulait « Les enfants de Dieu » qui était basée sur 1 Corinthiens 13. L'amour dans tout son ensemble, au travers des pensées, des actes, des paroles, au travers du comportement de l'enfant de Dieu comme tel. Celle-là a été suivie des serviteurs de Dieu. Qui étaient les vrais et qui étaient les faux? Pour amener les enfants de Dieu à comprendre que ceux qui se trouvent au-devant d'eux pour les enseigner, s'il y était de la part de Dieu, ou s'il venait simplement en leur propre nom. Donc, sur cette cassette, on va tenter de faire une suite selon le plan de Dieu, pour amener les enfants de Dieu à la compréhension, pour en venir à comprendre le sens du salut qui est venu apporter à chacun de ses enfants. On va baser cette cassette sur la loi et la foi. Pourquoi la loi et la foi? Si on regarde au temps de Jésus, Jésus lui-même est venu pour justement dénoncer les prêtres du temps qui avaient basé leur foi sur la loi. La loi était les 10 commandements de Dieu. Aujourd'hui, ces 10 commandements-là sont toujours effectifs. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui marchent par la loi, qui se mettent sous la condamnation, de ceux qui marchent par la foi, mais qui sont sous la grâce? Aujourd'hui, on entend souvent dénoncer des sectes, des dénominations, des églises. Pourquoi sont-elles dénoncées? Est-ce parce qu'elles marchent sous la loi, justement, pour mettre un fardeau plus pesant sur le dos des enfants de Dieu, en les obligeant sous toute forme à servir ces églises ou dénominations ou ces sectes, en leur demandant et les obligeant de les payer sous une forme ou d'une autre, soit par des travaux, soit par du côté monétaire. Mais la foi là-dedans, qu'est-ce qui fait la différence entre ces envoyés? Les envoyés de Dieu, sont-ils sortis des écoles bibliques? Sont-ils sortis des collèges? Sont-ils sortis d'un enseignement humain? Ou sont-ils simplement des hommes que Dieu choisit lui-même, enseignés par Dieu, par son esprit, par sa grâce? Des gens qui se sont complètement abandonnés dans les mains de Dieu, qui ont un vécu, qui viennent certifier qui ils sont. On pourrait dire celui qui n'a pas souffert, que sait-il? On parlait dans la cassette précédente du serviteur qui ne plaît à l'Éternel, de lui apprendre l'obéissance par la souffrance. On faisait mention aussi de ceux qui étaient au-devant de vous. Si c'était des gens qui avaient simplement revêtu un habit neuf, ou s'il avait vraiment revêtu l'homme nouveau. La différence entre les envoyés de Dieu, c'est ceux qui se sont mis à nu devant Dieu, afin d'être capables, par la grâce de Dieu, de revêtir l'homme nouveau. Ce ne sont pas généralement ceux qu'on voit au-devant des églises, à la tête des cercles. Ce ne sont pas ceux qui ont créé des dénominations, mais plutôt des gens saints, qui ne veulent pas trahir le message du Christ, qui se conforment à la parole du Christ, autant par la parole, par l'exemple, par les actions, par la sagesse de Dieu, par la miséricorde, par la bienveillance. En toute chose, ils n'ont qu'un but, plaire à Dieu. Puis démontrer au travers de leurs actes cet amour que Dieu a eu pour ses enfants. Est-ce que ceux qui vous parlent, vos prédicateurs, vos pasteurs, vos prêtres, vos curés, sont-ils des gens qui vous ramènent à la parole de Dieu en vous demandant de vous confier à Dieu? Ou se servent-ils simplement de sa parole pour tenter de se faire reconnaître et se faire servir? Jésus nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pourtant, ces hommes-là sont-ils à votre service en tant que serviteurs de la parole ou simplement à votre service pour vous donner des paroles agréables à entendre, signer des registres, que ce soit de mariage ou de mortalité ou de baptême? Sont-ils des gens fiers de vous voir inscrits dans leur registre comme appartenant à leurs églises? Pourtant, si on en revient à Paul, qui était un envoyé de Dieu, choisi par Dieu, Jésus n'avait fait la révélation à ses propres apôtres en leur disant que c'était un homme, c'était un instrument de choix. Il lui apprendrait ce qu'il aurait à souffrir pour son nom et pour son Église. Est-ce que Paul avait des lettres? Paul lui-même s'adressait aux Églises en leur disant qu'ils étaient ses lettres ouvertes. Son témoignage de vie qu'il leur avait apporté, qui avait emmené ses enfants à Dieu directement, à regarder au Christ, à vivre ce que le Christ leur demandait de vivre. Est-ce que les pasteurs, les prêtres, sont là pour vous amener à Dieu? Est-ce qu'ils vous amènent à la connaissance de Dieu? Ou se font-ils une joie simplement de savoir que vous leur appartenez? Les envoyés de Dieu ne sont-ils pas plutôt ceux que Dieu mandate pour aller reprendre, exhorter, consoler, aller veiller, aller visiter, aller reprendre, aller consoler, tendre la main à ceux qui sont dans la misère dans le moment, tendre la main à ceux qui ont été blessés par ces églises, tendre la main à ceux qui ne savent plus où aller, pourtant au temps des apôtres, malgré tous les miracles que Jésus a fait. Une partie des disciples s'est éloignée de lui parce qu'il trouvait que ses paroles étaient trop dures. Mais ses douze lui dirent, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que cette même parole, dans le moment, s'applique dans vos églises? Dans la secte dans laquelle vous appartenez, ou dont vous êtes sorti? Dans les dénominations dans le moment qui prédominent? On pourrait peut-être être surpris de savoir du nombre exact de sectes. Mais au début, je vous parlais de la loi et la foi. Paul en fait mention aux Galates. Dans Galates 3, il fait même un reproche aux Galates. Aux Galates insensés. Est-ce qu'aujourd'hui, si un envoyé de Dieu venait vous voir, qui vous dirait en tant que votre nom, ô insensé, n'est-ce pas par l'Esprit que vous avez été appelé? Pourquoi vous tournez-vous vers la chair qui vous fait porter un fardeau plus lourd que le fardeau que Jésus vous a laissé? Lui-même dit que son fardeau est léger, son joug est doux. Quelles sont ces dénominations? Quels sont ces hommes qui sont devant vous? Sont-ils enseignés de Dieu? Sont-ils des hommes qui marchent par l'Esprit de Dieu? Sont-ils des serviteurs qui marchent par la grâce de Dieu, autant en action, en parole qu'en œuvre? Aujourd'hui, on peut se baser sur toutes les statistiques, quelle que soit la religion, la secte ou les dénominations, ils ne comptent pas leurs membres en tant qu'enfants de Dieu. Mais ils comptent leurs membres en tant que quantité. Si on remonte à la Genèse, quel a été le premier péché? La majorité de vos pasteurs, la majorité de vos prêtres vont vous dire la désobéissance. Pourtant, le piège qui a été tendu à Ève était-il face à désobéissance? Face à la désobéissance, il aurait été facile de voir le piège. Mais le piège a été la transgression. Pourquoi a-t-il demandé à Ève? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu avait donné un ordre. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Celui qui est situé au milieu, n'en mangez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Lorsque Satan demanda à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Ève lui répondit, Dieu a dit. L'arbre, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais celui qui se trouve au milieu, n'en mangez pas et n'y touchez pas. Quelle était la transgression? Dieu n'avait pas dit pas toucher. Elle avait ajouté à la parole de Dieu. Du fait qu'elle a ajouté, déjà, devant Dieu, elle était en transgression, c'est ce qui l'amena à la désobéissance. Mais au moment où elle en avait mangé, elle était consciente du bien et du mal qu'a-t-elle fait. pour se sentir peut-être moins coupable, a été de l'offrir à Adam. Est-ce que les églises d'aujourd'hui le savent qui transgressent la parole? Est-ce que ces dénominations le savent qui outrepassent la parole de Dieu? Pourtant, on a mis en garde dans les proverbes 30. Toute parole de Dieu si on regarde les proverbes en tant que tels, il est dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. » N'ajoute rien à ces paroles. De peur d'être repris et d'être trouvé menteur. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons aller vers ces sectes, vers ces dénominations, vers ces églises qui se disent de Dieu? Il est traité ouvertement de menteur. Qu'est-ce qui nous empêche de leur dire? Notre orgueil? La peur d'admettre qu'on s'est fait avoir pendant des années? Est-ce que ces pasteurs, ces prêtres, ces dirigeants prennent autorité au point de vous empêcher de le dire? Ou est-ce que vous allez regarder à Jésus de tout votre cœur? Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Avez-vous cet amour dans votre cœur pour aller les reprendre? Sachant que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comment peuvent-ils se servir d'une parole qu'ils n'y croient même pas? Comment peuvent-ils enseigner une doctrine qu'ils ne veulent même pas vivre? Comment se présente-t-il devant vous en tant que serviteur de Dieu? Les pièges ne ressemblent-ils pas à celui que Satan avait dressé pour Ève et Adam? Ils se servent de la parole de Dieu, la connaissant, de paroles seulement. Ils apprennent toujours sans en arriver à la connaissance complète de cet amour que Dieu avait pour le genre humain. Si on regarde dans les prophètes, certains prophètes sont adressés à Dieu en disant « À qui est l'homme pour t'aider tant d'amour puis de pencher sur lui? » Devant Dieu, on est une créature d'un jour en tant qu'humain. Mais dans son plan, on est une créature qu'il a préparée pour une éternité. Est-ce qu'on veut passer l'éternité à se demander pourquoi on ne l'a pas cru? Est-ce qu'on veut passer une éternité à se reprocher d'avoir écouté l'homme plutôt que d'avoir tourné nos regards vers Dieu? Pourtant, il a créé les yeux, les oreilles, la bouche. Il nous voit, il nous entend, il est capable de nous répondre. Avons-nous assez de foi pour nous adresser à lui? Avons-nous assez de foi pour écouter ses réponses? Avons-nous assez de foi pour marcher dans cet abandon qu'il nous demande? Pourtant, les serviteurs de Dieu le font. Au risque de passer pour fou aux yeux du monde, Jésus lui-même le dit, qu'on va passer pour fou aux yeux du monde. Pourquoi? Parce que la sagesse du monde est rendue une folie devant Dieu. Ce que Satan avait proposé à elle, mauvais pas, vous allez être comme des dieux. Ces gens-là qui vous enseignent, se prennent-ils pour des dieux? Il y en a même qui ont le front de se présenter comme remplaçants de Dieu. Pouvez-vous les reconnaître? On parle de faux anges de lumière. Est-ce que la lumière a une ressemblance avec le blanc? Est-ce que des serviteurs habillés de pourpre et d'écarlate ressemblent à des gens habillés de rouge et de violet? Est-ce que les serviteurs des ténèbres ressemblent à des gens habillés de noir? Pourtant, tout est écrit. Nous donnons-nous la peine d'aller lire. Si chacun de vous mourait ce soir, laisserait un testament à ses enfants, je suis persuadé que les enfants seraient rendus chez le notaire le plus tôt possible pour en entendre le contenu. Mais est-ce que la Bible n'est pas l'Ancien et le Nouveau Testament? N'est-ce pas ce que notre Père nous a laissé en héritage? Qu'est-ce qui fait que nous hésitons d'aller simplement vérifier sa parole? Avons-nous peur d'être mal regardés? Aujourd'hui, en 95, les gens se plaignent que dans les journaux, c'est seulement des mauvaises nouvelles. Pourtant, tout le monde les achète. Êtes-vous déjà dit que la Bible veut dire aussi bonne nouvelle? Ce serait peut-être le journal le plus intéressant à lire. Pour ceux qui ont déjà pris goût à la lire, continuez. Pour ceux qui ont hésité jusqu'à date à la lire, je vous invite à le faire. Mais pour ceux qui s'en servent mal, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. C'est sûr qu'au cours des années, les gens ont parlé d'interprétation de la lettre, interprétation de la Bible. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, Père, je te loue, d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents, et dans ta bienveillance, tu l'as révélé à tes enfants? Est-ce que le mot révélation signifie quoi pour vous? Est-ce que le mot révélation veut dire apprendre, savoir, connaître? Mais d'une façon réelle. Le serviteur de Dieu, on pourrait regarder en Timothée. Quand Paul s'adresse, que personne ne méprise ta jeunesse, parce que ton savoir, c'est pas un savoir des hommes, c'est un savoir qui vient de la part de Dieu. Est-ce que ces mêmes prédicateurs peuvent dire la même chose? Sont-ils agréés de Dieu ou des hommes? Comment faire simplement pour en faire la différence? Jésus n'a-t-il pas dit qu'il connaissait chacune de ses brebis? Êtes-vous une brebis de Jésus? Ou êtes-vous simplement comme les moutons de Panurge? Vous êtes prêt à suivre n'importe qui suit votre idéologie ou qui vous offre une idéologie qui est attirant, ou si vous vous tournez vers Dieu, vers le Christ Jésus, sachant que seulement qu'au travers de lui, vous aurez le salut. Est-ce que vous vous arrêtez sur sa parole? Si on regarde au cours des ans, une certaine église qui remonte à des hiérarchies pour arriver jusqu'aux premiers apôtres, en prenant pour exemple le pape, si Pierre a été le premier, comment se fait-il que ceux qui lui ont succédé en hiérarchie ne faisaient pas partie des 12 que Jésus lui-même avait choisis, parce qu'il est encore vivant quand Pierre est mort, Matthieu vivait encore, Jean vivait encore à l'île de Patmos. Comment se fait-il qu'à travers de ces 12 que lui-même a choisis, il n'y a pas un de ceux-là qui a été parmi? Jésus lui-même dit, n'appelez personne Père sur la terre. Vous n'avez qu'un Père, Dieu. Mais est-ce que vous êtes au courant que Pape veut dire Père? Est-ce que vous êtes au courant que la religion l'appelle le Saint-Père? Êtes-vous au courant que lui-même se dit remplaçant du Christ? Qui sont ceux qui vous enseignent? Qui sont ceux qui vous entraînent à aller vers la condamnation en vous gardant sous la loi? Est-ce que le prix que Jésus a payé n'était-il pas assez grand pour vous libérer de la loi? Afin que vous marchiez par la foi sous sa grâce. Celui qui vit par la foi ne viendra pas en contradiction avec la loi, mais va reconnaître que la loi était mise là pour lui rappeler en tant qu'homme qu'il est pécheur. Mais qu'ayant Jésus comme Dieu, avec l'amour qu'il a démontré, et en croyant Jésus venu mourir pour couvrir ses fautes, et ressuscité pour leur prouver qu'il y avait la vie après. Est-ce que ces gens qui se fient à la foi, qui ont foi à la parole du Christ, qui ont foi en sa venue, en sa mort, en sa résurrection, est-ce que ces gens-là vont aller chez le diable? Dans la cassette précédente, on parlait que Jésus était la porte étroite. Il y a peu qui la trouvent. Mais ces cassettes, dans le moment, sont faites spécialement pour vous aider à trouver cette porte. J'inviterai chacun de ceux qui l'entendent à la faire entendre aux gens qu'ils aiment le plus, même au risque d'être mis à l'écart. Jésus lui-même a été mis à l'écart des siens pour un temps, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'il est venu faire. Mais vous, en tant qu'enfants de Dieu, avez-vous cette foi jusqu'à transporter les montagnes? Avez-vous cette foi en Jésus pour qu'un jour, par sa grâce, il puisse vous envoyer envers ses dénominations, envers ses religions et ses sectes pour les dénoncer ouvertement? Il nous demande simplement d'énoncer les œuvres stériles des ténèbres ne sont-elles pas des œuvres stériles? C'est sûr que les bâtiments sont beaux. Mais Jésus lui-même, se comparant au temple, dit « Vient le temps où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Est-ce que vos sectes, vos églises, vos dénominations adorent Dieu en esprit et en vérité? Ou font-ils leur honneur de vous montrer leur plus grande bâtisse, leur plus grande église, leur plus grande basilique, sous prétexte d'être des serviteurs de Dieu? Quelle est la différence? Dans le serviteur de Dieu, Dieu met sa parole. Dans le but que ce serviteur fasse connaître Dieu, fasse connaître Jésus, afin d'en faire des disciples de Jésus, des gens qui vont croire la parole de Jésus et qui vont la mettre en tant que fait vécu dans leur vie à chaque jour. Le serviteur de Dieu cherche toujours la dernière place. Mais si on regarde ces pasteurs, ces prédicateurs ne font-ils pas ce que Jésus lui-même a dénoncé? Qu'ils cherchaient les premières places dans les assemblées. Ils cherchaient les premières places pour être au vu au-dessus de tout le monde. Est-ce que ces hommes donnent l'image que Jésus lui-même dénonçait? Combien de fois dans la vie sommes-nous arrêtés pour nous demander combien Jésus a tenté de se manifester à nous, même au travers des temps les plus difficiles de notre vie, ou les temps qu'on était plus éloignés de lui? Se serait-il servi même d'enfant pour nous faire parvenir un de ses messages? Qui sont les envoyés de Dieu? Et qui sont ces pasteurs, ces prédicateurs, ces prêtres? Ils n'ont pas le souci des âmes comme ils le prétendent, qui ne reçoivent pas les enfants de Dieu comme les enfants de Dieu. Si on était portier face à un prédicateur ou un pasteur ou un prêtre, on serait regardé comme portier, mais serait-on les premiers à ouvrir la porte si Jésus venait qu'à frapper? Est-ce qu'au moment où on le laisserait entrer, est-ce que le même feu de sa maison le lui reprendrait? Est-ce qu'il rentrerait avec un fouet? Est-ce qu'il virerait ses autels à l'envers à coups de pied en disant qu'ils ont pris la maison de son père pour en faire des repères de brigands puis de voleurs? Ou sommes-nous trop gênés pour regarder à lui puis dire: j'ai honte de m'être laissé avoir. Comment faire pour se déprendre de ces pièges qu'ils nous ont tendus? Encore là, Jésus nous donne la réponse. Il dit que dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, celle qu'il lui-même a enseignée. Vous voulez vous dégager de ces pièges? Rappelez-leur simplement la vérité que Jésus est venu annoncer. Rappelez-leur qu'on n'a seulement qu'un Père, qu'il n'y a pas personne qui peut prendre le nom de directeur ou maître, que notre Père est dans le ciel. Rappelez-leur l'amour qu'il nous a demandé d'avoir. Demandez-leur d'agir avec la foi qu'il nous a demandé d'avoir. Et face au Seigneur, je peux vous assurer qu'ils vont vous exclure de leur synagogue. Vous vous sentez pris par ces sectes, par ces dénominations, par ces églises. Tournez vos regards vers Dieu. Dieu se penchera sur vous. Dieu vous donnera les mots que vous aurez à dire. Fait même une promesse que si quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, ne va pas se mettre en peine. Il va tout nous rappeler sur le moment. Est-ce que notre foi est vivante au-dedans de nous? Est-ce que notre foi nous fait mettre en pratique sa parole? Est-ce que notre foi est à l'état où ses apôtres lui ont demandé « Augmente en nous la foi » Pourtant, sa réponse, si vous en aviez comme un grain de moutarde, vous direz à ce mûrier de se planter dans la mer, puis il le ferait. Mais avez-vous assez de foi pour rentrer dans ses temples, dans ses églises, dans ses synagogues, pour dénoncer deux œuvres stériles? Serviteur de Dieu est venu prendre sur lui les souffrances des enfants de Dieu, leurs faiblesses, leurs maladies. Est-ce que Dieu a changé? Ou est-ce que ces prédicateurs se servent de vos souffrances, de vos maladies, pour mieux vous endoctriner? Est-ce que Jésus, en venant mourir, est venu vous faire un lavage de cerveau ou vous laver le cœur de tous vos défauts? Ces gens se servent-ils de vos défauts pour vous laver le cerveau? Comment se fait-il qu'il y ait tant de gens pris dans ces sectes, pris dans ces dénominations? Comment se fait-il que tant de gens mettent à cœur de pourvoir à ces faux serviteurs? Mais qu'au moment où un envoyé de Dieu vient leur rappeler de servir Dieu plutôt que l'homme, ils se permettent de rejeter le serviteur de Dieu, l'envoyé de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Celui qui vous rejette, me rejette » Comment se fait-il que ces prédicateurs ne puissent même pas reconnaître un envoyé de Dieu? Est-ce parce que la voie de perdition est large? Se sentent moins seuls en s'y engageant? Du fait que vous endoctrinez? Ou est-ce que les envoyés de Dieu, malgré le mépris qu'ils reçoivent, malgré les mauvaises réputations qu'ils se font faire, vous aiment encore assez pour vous exhorter à vous tourner vers Dieu, pour qu'il vous libère de ces fardeaux que ces hommes vous ont mis sur le dos? L'envoyé de Dieu, est-ce qu'il peut donner l'exemple en parole, en action, en sagesse, en miséricorde, en bienveillance? Est-ce qu'il peut vous la donner? C'est sûr. Dieu a tous ses qualificatifs. Il l'a prouvé au travers de Jésus. Il continue à le prouver à travers de ses envoyés. Mais est-ce que ces hommes qui sont devant vous vous démontrent la même image? C'est sûr que pour certains, ils vont trouver cette cassette dure. Certains vont trouver qu'il y a matière à exagération. Mais est-ce qu'on peut exagérer l'amour de Dieu? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, vous qui écoutez, seriez-vous prêt simplement à vous abandonner entre ses mains? Je vous demande pas d'aller vous faire tuer pour lui. Je vous demande simplement de l'accepter dans votre vie, mais en lui consacrant votre vie. Est-ce que ces serviteurs que vous avez dans vos églises seraient prêts même à vous sacrifier de peur de perdre leur vie? Pourtant, l'envoyé de Dieu est prête même à perdre sa vie. Le Seigneur a fait une promesse envers ceux qui croiront en lui, et ceux qui chercheront à conserver leur vie la perdront, mais ceux qui la perdront à cause de son nom la retrouveront. En tant qu'enfant de Dieu, ou serviteur de Dieu, ou envoyé de Dieu, nous reverrons-nous de l'autre côté? Ou comme sur la cassette précédente, prendrons-nous toute l'éternité à essayer de comprendre pourquoi qu'on n'y a pas cru? Pour certaines gens, les envoyés de Dieu sont des fous du Christ. Si c'est pas l'inverse qu'ils pensent. Mais un jour, lorsqu'ils paraîtront devant le Christ, est-ce qu'ils auront l'air fous? Lorsque Jésus leur dira « Allez au feu maudit » ou lorsqu'il leur dira « Allez-vous-en, je vous connais pas » pourtant, ils vont lui dire, ils ont parlé de lui sur les glaces, qui ont guéri malades, pourtant ils les traitent d'ouvriers d'iniquité. De pourquoi? Était-il envoyé de Dieu ou envoyé des hommes? Sortait-il de l'enseignement de Dieu ou sortait-il des écoles bibliques par l'enseignement des hommes? Sur l'autre cassette, je fais référence à une usine de chromage. S'il y était des véhicules, pour aller comparer à des dragsters, ils ont plus d'aile à faire le mal que les serviteurs de Dieu à faire le bien. C'est une honte. Pourquoi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu n'ont pas le même zèle, mais envers le bien? Est-ce que l'envoyé de Dieu peut venir leur répéter? Ayez du zèle pour le bien. Dénoncez les œuvres stériles. Ou est-ce que les enfants de Dieu voudraient se faire chromer eux autres aussi? Est-ce que le problème des églises actuelles face à la transgression, qui est arrivé au début ne serait pas le même dans le moment. Les enfants de Dieu préfèrent transgresser de peur d'être appelés. Jésus nous dit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Comment se fait-il que dans le monde, il y a près de 2 milliards de personnes qui se prétendent chrétiens? Pourtant, Jésus nous dit, « Heureux es-tu, petit troupeau, de qui parle-t-il? » Se pourrait-il que ces milliards, ces 100 millions de personnes soient dans l'erreur? Se pourrait-il qu'au lieu de prendre le véhicule de la grâce de Dieu, aient pris ces véhicules chromés? Je ne dis pas ces choses pour me moquer d'eux. Tout je peux dire, c'est comme Paul a dit. L'apôtre dit qu'il le prêche par rivalité ou par compétition, quoi que ce soit. Et je me réjouis, Christ est prêché. En tant que serviteur de Dieu ou envoyé de Dieu, on peut répéter les mêmes paroles. Sachant que Dieu n'a pas le bras trop court pour vous le tendre. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous voulez être saisi par Dieu, libéré par Dieu, ou être saisi par l'homme et enchaîné par l'homme? Pourtant, se dégager, la seule façon d'y parvenir, c'est par la foi et non par la loi. La loi nous montre une chose. La loi de Dieu nous montre qu'en tant qu'homme, on est incapable de la vivre. Sans lui, on n'y arrive pas. Pourtant, la foi nous montre que par lui, nos transgressions sont déjà effacées. Est-ce que nous voulons marcher par la foi et nous sentir libérés et marcher avec lui? Ou si par la loi, nous sentir condamnés et essayer de nous acheter une place? N'est-ce pas ce que ces églises font? Continuellement de demander de l'argent? Dans les proverbes, il est dit, la sangsue a deux filles, donne, donne. Est-ce que ces églises sont pas dirigées par des sangsues? Est-ce que ces prédicateurs qui disent, qui annoncent cette parole de Dieu, ne sont pas des sangsues? Pourtant, il est écrit que celui qui méprise le pauvre déshonore celui qui l'a créé. Est-ce que ces pasteurs et ces églises méprisent les pauvres, préfèrent s'entourer de riches? N'est-ce pas l'œuvre d'une sangsue? C'est rare que vous allez trouver une sangsue sur un morceau de bois sec, sauf si elle attend de trouver un bras bien juteux ou une jambe bien juteuse. Est-ce que ces prédicateurs n'agissent point ainsi? Est-ce que vous vous attardez à la parole de Dieu? Est-ce que vous prenez le temps d'aller vérifier dans ce testament qu'il nous a laissé la vie qu'il nous offre? C'est pas une liberté à peu près qu'il donne. Plusieurs de ces églises vous promettent la liberté, mais vous enchaînent à des doctrines de perdition. Tandis que Jésus est venu vous libérer, pas pour vous mettre esclaves des hommes. Paul nous dit, présentez-vous comme des offrandes vivantes, pas aux hommes, au Christ. L'envoyé de Dieu, il se compare lui-même comme un serviteur inutile, parce qu'il n'y a rien qui peut accomplir que Dieu n'ait pas préparé d'avance. La différence entre les sectes, les dénominations et les églises. Tout le monde cherche à plaire à leurs dirigeants, sous prétexte de faire de quoi pour Dieu. Mais se sont-ils arrêtés sur ce que Dieu leur demande? Ou par leur témoignage de vie ne le contredisent-ils pas? Choisissez vous-même. En revenant au thème du début, la loi ou la foi. C'est sûr que ces gens sont agréés des hommes. Ils ont même des certificats pour prouver qu'ils sont pasteurs. Ils ont des certificats pour prouver qu'ils sont prêtres, ou docteurs, ou évêques. Mais envoyé de Dieu, où est son certificat, si ce n'est la promesse d'avoir son nom inscrit dans le livre de la vie? Le fait d'avoir son nom dans le livre de la vie lui assure une vie éternelle. Est-ce que ces prédicateurs, ces pasteurs, ces évêques ou ces prêtres ont cette même assurance-là face à la mort? Combien y en a-t-il de ces derniers qui ont peur de mourir? Probablement parce qu'ils ont peur d'affronter le mensonge en faisant face à la vérité de l'autre côté. Mais l'envoyé de Dieu, même s'il est regardé comme imposteur, la seule chose qui va le rappeler, qu'il continue à faire son travail, c'est l'amour qui l'habite, même envers ses détracteurs. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais est-ce que c'est pasteurs, ces dirigeants, auraient assez d'amour pour venir me reprendre, si face à eux autres, je suis faux? J'ai aucune force, aucune puissance contre la vérité. Mais si ces derniers sont faux, quelle puissance ont-ils contre la vérité? Qu'est-ce qui fait que l'envoyé de Dieu est véritable? L'envoyé de Dieu ne rend pas témoignage de lui-même, il rend témoignage de la vérité qui est le Christ. Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Serviteur de Dieu, la seule assurance qu'il a, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu, peut dire, je suis sur le chemin. Je marche avec la vérité qui est Christ, afin d'hériter de la vie qu'il m'a promis. Est-ce que vos dirigeants peuvent dire la même chose? Ou combien de personnes, malgré qu'il ait vu le dirigeant commettre des erreurs, s'abstiennent de les reprendre? marche-t-il avec l'amour humain ou l'amour divin? En tant que père de famille ou mère de famille, si vous saviez que vos enfants sont sur une mauvaise voie, attendriez-vous de les voir brûler pendant une éternité pour dire « j'aurais dû agir » Je ne crois pas que rendu dans le tombe, vous pouvez les changer de place. Mais l'amour divin peut vous faire agir avant qu'ils se ramassent dans le tombe. Dans le moment, on va arrêter cette cassette, ce sujet, pour le reprendre sur une autre, en parlant de qu'est-ce qui est le vrai culte, qu'est-ce qui est le faux culte, et qu'est-ce que le culte incrédule. D'ici là, je prie Seigneur Jésus d'accomplir l'œuvre qu'il a demandé de faire, soit de rappeler à ses enfants de se tourner vers lui, d'y croire, de marcher avec foi, et de pouvoir tenir ferme jusqu'au bout, afin d'hériter de ce salut qu'il a promis. C'est au Saint-Nom de Jésus que je fais cette prière pour chacun de vous qui écoutez. Et encore une fois, je le remercie à l'avance. Merci.
Tous les jours de ta vie.